Comme l'a dit le président Lafont, vous parlez de l'apothicairie de l'hôpital de Lunéville. C'est quelque chose que je n'avais pas du tout envisagé de vous présenter pour la simple et unique raison que pour plusieurs raisons. La première étant que cette apothicairie n'existe plus. Mais la deuxième, qui est la plus importante, c'est que je ne connais rien au groupe de pharmacie. Que je n'ai jamais travaillé sur ce sujet depuis que je fais de l'histoire de la pharmacie, ça va bientôt faire 40 ans, et donc que jamais l'idée ne me serait venue, ni l'outrecuidance d'ailleurs, de parler des pots de Lunéville. Le conseil d'administration m'a laissé organiser cette séance, et je le remercie, et je me suis dit que le mieux serait de parler de sujets nancéens, et vous allez voir qu'il y a effectivement un certain nombre de sujets nancéens. Et puis, un jour, le président Lafont m'a mis en courriel en me disant « Mais vous ne pourriez pas trouver quelqu'un pour parler de l'apothicairie de Lunéville sur laquelle on ne sait pas grand-chose ?» Et je suis allé à Lunéville rencontrer quelqu'un qui m'a extrêmement mal reçu, qui ne m'a pas écouté. Je suis sorti de chez lui furieux. Et je me suis dit, moi j'y connais rien au beau, mais je vais quand même en parler, puisqu'un professeur peut toujours parler de choses qu'il ne connaît pas, c'est très classique. Et j'ai eu le bonheur de rencontrer des gens de Lunéville qui m'avaient dit, dans le passé, qu'est-ce que vous attendez, Pierre, pour faire quelque chose sur Saint-Jacques de Lunéville? Et j'ai trouvé différentes choses, j'ai rencontré des gens extrêmement bienveillants, il n'y a pas que des imbéciles. J'ai rencontré des gens extrêmement bienveillants qui m'ont fourni des photos que personne n'a jamais vues. Je sais qu'il y en a encore ailleurs, mais je n'ai pas eu le temps parce que la ressource est plus grande que ce qu'on imagine. Et donc je remercie, comme je le lui ai dit à midi, je remercie le président Lafont de m'avoir fait faire ce travail qui va permettre de faire une première étude des pots de Lunéville parce qu'il n'y en a jamais eu avant l'incendie et il n'y en a jamais eu après l'incendie. Mais c'est vrai que moi, on m'avait dit, faites donc quelque chose avant qu'il soit trop tard. Et il est effectivement trop tard parce que M. Naudet, qui était le pharmacien gérant de Lunéville, que je connaissais bien, dont j'ai eu le fils et la bru comme étudiant, même elle a passé sa thèse avec moi, il y avait des choses. Malheureusement, il est mort l'année dernière parce qu'il avait 95 ou 96 ans. Je viens d'apprendre le décès de M. Varolin. Voilà. Alors, cette apothicairie, vos prédécesseurs l'ont vue parce que quand vous êtes venu en 1992, et c'était déjà sous ma houlette, on était allé à Lunéville. Mais à l'époque, je n'avais pas pris de photos, et ainsi de suite. Alors, j'ai réuni beaucoup de choses. Bon, soyez indulgents, parce que moi, les pauvres, vous savez que je... Mais je vais quand même vous dire des choses, et on a la capacité d'apprendre des choses. Et en reprenant les comptes rendus de 1992, qui avaient été faits par M. Varolin, Mme Valette et M. Montagu avait dit, et je ne l'ai retrouvé que ces jours-ci, ça. M. Montagu avait dit, cette collection de pots que l'on imagine homogène, enfin que l'on croit être homogène au premier regard, elle est très hétérogène par différents aspects, les formes, les tailles, les décors, les inscriptions. Et moi, ça m'a frappé sur les photos quand on m'en a donné. Et donc, il y a une étude, mais malheureusement, comme aucun inventaire n'a été fait correctement, j'en ai débrouillé la semaine dernière tout un tas à Lunéville aux archives municipales, c'est marqué 36 pots, 36 chevrettes, deux machins, deux trucs, vous voyez, mais aucune inscription, donc il y a des choses qui sortent qu'on ne retrouvera malheureusement jamais. Voilà, alors si je trouve mon diaporama, ça doit être ça. Voilà, on va essayer de mettre ça en plein écran. Voilà, alors, j'ai eu le bonheur de rencontrer M. Carciofi, qui est un nourri et faïencier passionné par le passé de sa ville, et puis Caroline Louoyer, qui est la conservatrice des archives municipales, qui m'a ouvert grand ses portes avec beaucoup de gentillesse, et qui m'a donc déjà trouvé beaucoup de choses. Voilà, alors, donc, voilà ce qui s'est passé dans la nuit du 2 janvier 2003. M. Freund, qui est dans la salle, a vécu ça. Donc, le château qui appartenait depuis au Conseil Général était d'une grande vétusté. J'avais visité quelque temps auparavant les anciens pompiers, et c'est vrai qu'il y avait des fils électriques dans tous les sens. Effectivement, ils n'ont pas eu de chance. Le vent était très violent, on a détaché beaucoup, beaucoup de pompiers. Je connais personnellement le commandant des pompiers de l'époque, qui était quelqu'un de très compétent et très, très gentil et tout. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils ont eu énormément de difficultés. Le feu a pris du côté droit, c'est-à-dire du côté de la chapelle, du côté de la partie militaire, où il y avait le mess des officiers, là où est mort Stanislas, et puis donc également dans le musée qui est au premier étage derrière la chapelle. Et des collections du musée, presque tout a été détruit, et de la collection de pharmacie, tout a été détruit. Il ne reste plus, sur 200 pots environ, que quelques tessons de bouteilles. Donc, voilà ce que ça donne le lendemain. Donc, vous voyez que ce n'est pas très fameux. Donc, tout ça a été remis en état par le conseil départemental, mais la collection de pots, on la reverra bien évidemment jamais, même s'il y a néanmoins des pots qui existent encore, qu'on trouve à gauche et à droite. Je parlais tout à l'heure au doyen Duval de la collection qui est au musée Lorrain, qui appartient à la faculté. Il y a au moins une chevrette de cette série qui est dedans. Ce que vos prédécesseurs ou vous-même, si vous étiez là en 92, avez vu, c'est cela. C'était une petite pièce dont je ne me souviens pas très très bien. Derrière le photographe, il y a une grande vitre, mais pour le moment, je ne sais pas ce qu'il y a derrière la grande vitre. Il y a une fenêtre d'un côté, donc ça doit être celui qu'on ne voit pas. Il y a une porte de l'autre côté. Je viens de retrouver par hasard des plans. Donc, donc c'était une seule pièce. Il y avait, comme vous voyez, deux grands vases de monstres qui étaient de la confection d'Hyacinthe et un autre qu'on verra tout à l'heure. Un mortier que vous voyez qui date de 1750, qui avait été offert par Stanislas à l'hôpital Saint-Jacques. Hein, donc je ne vous montre pas parce que vous le voyez. Il y avait un beau lustre en fer forgé, quelques autres mortiers qui doivent être derrière le photographe. Et puis, selon l'inventaire de 1969 que je vais vous montrer, il y a 173 vases, mais si vous regardez bien, vous voyez déjà que il y a des vases de différentes formes, de différentes tailles. Pardon, je me vais devoir toi, Thierry. Il y a différentes formes, différentes tailles, différents décors, et il semble qu'il y ait différentes provenances. Et dans un inventaire qui a été fait en 93 par les gens de l'inventaire régional, qui siègent à Nancy, on passera demain matin peut-être devant les locaux, la personne qui fait ça, Mme Troncard, dit il y a certainement des faïences qui viennent de Toul Bellevue. Toul Bellevue, c'est une manufacture qui est extrêmement connue. Moi, je connais le nom depuis très très longtemps, sans rien n'y connaître. Et Robert Montagu, en 1992, avait dit, je crois que j'adopte, avait dit qu'il faudrait étudier ça de près, car c'est beaucoup moins homogène que ce qu'il paraît. Et moi, ça m'a frappé, moi qui n'y connais rien, ça m'a frappé quand j'ai regardé cette affaire. Voilà. Alors, vous voyez un autre côté, ce sont des boiseries qui datent du XVIIIe siècle, qui ont été transférées depuis l'hôpital, et on a remis, donc, comme on fait d'habitude, les pots d'une façon plus espacés que ce qu'on fait dans la pharmacie de l'hôpital, quand il y a des médicaments à côté, des ordonnances et des choses comme ça. Voilà. Donc le mortier a disparu, c'est dommage, parce qu'il y avait certainement des armoiries dessus. On sait le nom du fondeur, mais c'est encore quelque chose sur lequel je n'ai pas eu le temps de me pencher. Voilà, donc des vues telles que on a pu les voir, elles sont dans différents calendriers, elles sont aussi dans tout un ensemble de livres sur les pots de pharmacie, en particulier l'an dernier qui est les apothicaries d'autrefois, je ne sais plus de qui, enfin qui a quelques dizaines d'années, pas plus de deux dizaines d'années. Voilà. De ces vases de monstres, donc, qui étaient au nombre de deux, sont en ce moment montrés à Lunéville dans une exposition qui est très belle, des tessons, et c'est tout ce qu'il en reste, et c'est tout ce qu'on peut montrer à peu près d'aujourd'hui. Alors vous voyez que ce sont des vases qui sont bon, bien très gros, hein, vous savez ce que c'est qu'un vase de monstre. Ce sont des vases qui n'ont pas les mêmes décors que la collection dite traditionnellement de Stanislas offerte à l'hôpital Saint-Jacques, et puis ceux qui sont de coloration bleue, en camailleux, c'est complètement différent. Donc il faudrait faire une étude très sérieuse avec des gens compétents, c'est-à-dire pas moi. Voilà, mais j'ai répondu à la question de Monsieur le Président en essayant de faire au mieux. Voilà. Alors, l'hôpital est très ancien, il a été fondé par le duc Léopold en 1706. Il est toujours en partie dans les locaux de 1706, là où il a été constitué, avec un hôpital tout neuf qui a été fait récemment. Voilà une photo que j'ai prise, donc vous voyez au mois de mai, il y a un cloître à l'italienne, et la pharmacie était à l'origine au premier étage de ce cloître, et d'après les plans que j'ai retrouvés, il semblerait qu'elle soit du côté sud, donc on sait à peu près où c'était. Et les inventaires d'autour de 1830 que j'ai pu consulter à Lunéville disent qu'il y avait trois pièces. Il y avait une apothicairie, un laboratoire et une réserve avec des pots dans chacune des pièces, mais malheureusement un inventaire peu précis. Et donc ces pots ont dû être à une époque donnée qu'on ne connaît pas, tous regroupés à l'intérieur d'une seule pièce. Pourquoi, comment, j'en sais rien, c'est des études complémentaires qu'il faut qu'on fasse. Voilà, donc ce cloître à l'italienne est resté totalement identique à ce qu'il était à l'origine. Alors voilà des photos que à peu près personne n'a jamais vues, puisqu'elles n'ont jamais été publiées. Elles appartenaient soit à M. Naudet, soit à M. Carciofi, soit aux deux. Et donc vous voyez que ce sont ils sont très serrés les uns à côté des autres. Vous voyez très bien qu'il y a différentes formes, qu'il y a différentes couleurs. Malheureusement, je ne peux pas arranger plus les photos puisqu'elles ne sont pas de moi et que même si on grossit, on n'aura pas trop de choses. Vous voyez qu'il y a donc des décors bleus, qu'il y a des peaux beaucoup plus récentes qui sont beaucoup moins intéressants. Vous voyez qu'il y en a qui sont comme celui-là, sans doute comme celui-là, sans doute comme celui-là que je vous montrerai en plus gros tout à l'heure. Donc des peaux biancées, il y en a beaucoup. Il y a aussi des chevrettes avec des imitations de bois. Aussi bien sur leur bec verseur que sur la prise qu'on a en main, et sur le décor, c'est ça la série qui est réputée, la série principale de Lunéville, dite offerte par Stanislas autour de 1750, il y a, donc ici au milieu, je vous montrerai, une tête de buffle, qui est les armoiries de la famille Leczinski. Et donc, à partir de là, on dit, c'est une collection qui a été commandée et qui a été offerte par Stanislas Leczinski, duc de Lorraine, roi de Pologne, puisque c'est son titre officiel quand il est duc de Lorraine. Hein, il garde son titre de roi de Pologne. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de formes différentes et qu'il faudrait pouvoir les étudier les uns après les autres pour savoir à quelle série ils appartiennent. Alors j'ai oublié de dire, mais il n'est pas trop tard, en dehors de 170 pièces environ de faïence de différentes époques, il y a aussi, si je prenais ça, ça fait moderne, donc on va s'en servir, donc il y avait aussi 23 bouteilles de différents modèles, dont certaines photos ont été publiées dans la revue d'histoire de la pharmacie, après 1978, qui avait été l'époque d'une première visite de la SHP en Lorraine, où M. Naudet avait amené à Nancy, au musée Lorrain, des pots qu'il avait pris dans son officine de Lunéville. Il avait amené aussi des bouteilles en verre. Ce sont des grandes bouteilles en verre soufflé, bien évidemment, de deux modèles, un plus carré et un plus rond, avec une contenance variable, avec des inscriptions, en particulier une qui est dans la revue qui porte le nom d'Aude Mélis de Montpellier. C'est la seule qu'on peut identifier. Et des bouteilles comme ça, il y en avait 23. Ces bouteilles étaient dans la pharmacie au-dessus des boiseries et dans le musée, elles étaient aussi au-dessus des boiseries. Et bien évidemment, il n'en reste rien du tout, tout a fondu. Voilà, donc les deux vases de monstre à l'époque, et donc ils sont au milieu des ordonnances. Vous voyez en bas, mon truc là marche de nouveau plus, si vous voyez en bas qu'il y a tout un ensemble de feuilles de soins, d'ordonnances venant des services, je ne sais pas quoi, qui sont donc mélangés, et j'ai d'autres photos qui montrent ça, donc on travaille au milieu des pots, mais c'était encore vrai il y a quelques années, à la maison de secours ici, l'hôpital gériatrique, à Commercy, enfin, dans beaucoup d'endroits. Voilà, alors ça c'est pris dans notre revue, c'est un flacon qui a posé problème et qui était une sorte de schmilblick, Cécile. C'était un schmilblick de l'époque. Il y a eu une demi-douzaine de réponses. Il semblerait qu'on se soit accordé avec M. Julien et d'autres sur le fait que c'était une bouteille qui pouvait servir de rafraîchissoir. Donc on mettait sans doute au milieu, dans cette partie-là, quelque chose qu'on voulait, un liquide qu'on voulait rafraîchir, et puis on mettait un autre liquide dans la partie périphérique pour donc le rafraîchir. Voilà ce qu'il en ressort. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Toujours est-il que l'inventaire fait en 1966, quand le transfert va se faire, ça, c'est un récipient qui... Il y a deux récipients qui portent le nom de gargoulette. Et quand on regarde dans le dictionnaire ce qu'est une gargoulette, c'est marqué que c'est un récipient qui sert à rafraîchir quelque chose. Alors on suppose que c'est vrai, sans pouvoir être affirmatif, puisqu'on n'a jamais vraiment bien su si c'était ça ou non. Voilà. Alors vous voyez aussi Donc, quelques photos, une autre photo qui provient de l'autre revue. Donc, vous voyez, malheureusement, là encore, aucun inventaire des inscriptions n'a été fait, ni dans notre revue en 1968, ni par les gens de l'inventaire en 1993. Donc, on en connaît quelques-uns, mais c'est tout. Et on ne saura jamais la totalité. Ça, c'est à peu près clair. Voilà. Et puis, encore, donc, une troisième. Donc, ça, c'est intangible, mais ceci a disparu. Voilà. Donc, on est déjà beaucoup plus renseigné. Et puis, donc, cette dernière grande bouteille d'Aude Mélisse de Montpellier, qui était toute seule sur sa page de la revue. Alors, on s'accorde pour dire que les pots de l'apothicairie de l'hôpital Saint-Jacques de Lunéville sont de la manufacture Chambrette. Les Chambrettes sont une illustre famille qui est originaire, vous voyez, d'une région qui n'est pas la Lorraine. Ils sont originaires ou ils ont fréquenté des régions où on fait beaucoup de pots de pharmacie. C'est vrai pour Nevers, c'est vrai pour Rouen, c'est vrai pour Montpellier, j'ai pas tout mis. Mais voilà, ils ont été à Champigneul, vous y êtes passé par le TGV, puisque c'est la dernière localité avant que vous n'arriviez à Nancy, et il y a eu une très célèbre manufacture de faïence à Champigneul, que les historiens locaux connaissent bien. Donc voilà. Donc, la famille a connu différentes personnes. Donc, vous voyez, Vincent, qui est marchand, n'est pas un faïencier, mais par contre, il a un fils qui est faïencier itinérant. Il vient de sortir un livre, il y a quelques mois, d'une des spécialistes de Lunéville, Mme Calame, qui travaille dessus, sur ce sujet depuis des décennies, et donc qui a écrit un très beau livre sur les faïences de Lunéville, où il y a quelques petites choses sur les pots de pharmacie, et je dois rencontrer Mme Calame, que je connais bien par ailleurs, un de ces jours, pour essayer d'en savoir plus sur ce sujet. Donc vous voyez qu'on passe à une première génération de faïenciers moins mobiles avec Jean-Jacques, qui est à Champigneul pendant un certain nombre d'années, et puis le fils, donc c'est Jacques, c'est le grand représentant de la famille des Chambrettes. Malheureusement, Jacques Chambrette à Lunéville va mourir rapidement, et puis c'est son fils qui succède, et à partir de là, les ennuis commencent, ça se passe pas bien, ils s'entendent pas, et donc ça finit par capoter, et donc à la suite de quoi, si vous vous intéressez aux faïences, la faïencerie sera rachetée par quelqu'un qui s'appelle Keller, et ça a été le début de la dynastie des Keller et Guérin, qui sont extrêmement connus, extrêmement célèbres, et qui ont travaillé jusque dans les années, comme vous voyez, 1981, où la faïencerie s'est arrêtée. Voilà. Alors, il y a des pots de 1750. La grande majorité, ceux que je vous ai montrés sur les photos, sont réputés être du milieu du siècle, donc de Chambrette, mais les spécialistes trouvent des décors différents, beaucoup plus colorés, beaucoup plus vifs, en particulier un pot de Serra de Boulard qu'on voit en ce moment beaucoup dans les expositions, qui date de 1780. Donc on ne sait pas trop où on en est, est-ce qu'on est encore dans les Chambrettes finissant ou est-ce qu'on est déjà dans les Keller. Vous voyez que c'est des choses qui nécessiteront qu'on travaille plus si on veut en savoir plus. Alors, l'hôpital est en plein centre de la ville, à quelques centaines de mètres du château, et dans une rue qui s'appelle la rue de Villers, où M. Naudet avait sa pharmacie, et donc la manufacture Chambrette est installée à quelques centaines de mètres. Donc vous voyez que c'est pas étonnant qu'on ait pu avoir des pots de chez Chambrette, rue de Villers, à l'hôpital, qui est situé à rue de Villers également. Mais à un moment donné, les choses allaient bien, la manufacture a eu une grande extension, il y a eu plusieurs établissements, vous avez tous encore entendu ce nom de Saint-Clément, qui n'est pas la même chose que Lunéville, il y a eu aussi Badonville, il y a eu aussi Bexon, il y a beaucoup de choses, donc il faut être compétent pour ne pas raconter de sottises. Voilà. Alors, vous avez vu que ces pots étaient situés au milieu de la pharmacie, comme c'est souvent encore, et à un moment donné, quelqu'un a, soit M. Naudet, qui était pharmacien gérant, soit la municipalité, puisque le maire était le président du conseil d'administration, on dit, ces pots-là, ils ne sont pas bien, on va en perdre, on va en classer, il serait bon de les classer et puis de les transférer ailleurs. Et donc, des démarches ont été faites, il serait intéressant de retrouver d'ailleurs le dossier de classement, je ne sais pas où il est, il n'est pas à l'inventaire ici à Nancy en tout cas, parce qu'on a eu bien du mal de trouver quelques petites choses ces temps derniers. Donc, vous voyez que M. Malraux, ministre des Affaires culturelles, a prononcé le classement au titre des monuments historiques de la totalité des pots, et puis d'un certain nombre d'objets, pas tout. Donc, le 19 avril 1966, que Donc, le 20 mai, le conseil municipal s'est prononcé pour une vente. Donc, pas un transfert des pots qui, en fait, lui appartiennent vers un musée, mais d'une vente à un musée. Il n'était pas prévu, à l'origine, de les mettre au musée de Lunéville. Il y avait une sorte d'enchère au plus offrant pour les mettre quelque part. Voilà, c'est ce qu'on relit, c'est ce qu'on lit, c'est ce qu'on reprend du texte du conseil municipal. Je les ai à la maison parce que Caroline me les a passés. Voilà. Et donc, une décision municipale de mettre en vente. On décide de convoquer des experts. L'expert, c'est le conservateur en chef du musée de Sèvres et l'abbé Échou, qui est le conservateur du musée Lorrain. Ils viennent, donc, vous voyez, ça traîne, hein, ça dure quand même un moment. Et ils se prononcent donc pour une somme de 46 000 francs que le conseil municipal accepte et la décision est prise de vendre au musée. Voilà. Donc il faut l'accord du sous-préfet, donc vous voyez que c'est pour des choses qui sont quand même pas fondamentales, il faut des accords importants. Et puis la municipalité ajoute le mortier, celui que vous avez vu, dans un deuxième temps, mais ça ne fait pas l'objet d'une vente, c'est une procédure différente, il est simplement en dépôt. Voilà. Donc cet inventaire, je l'ai relu et recompté, parce qu'on ne trouve pas dans les livres les mêmes choses que moi je trouve dans l'inventaire de 1966, donc il y a des pièces qui sont peut-être disparues. Donc vous voyez, les deux grands vases que je vous ai montrés, des pots couverts, des chevrettes, d'autres vases, des petits pots, des cruches et les deux gargoulettes que je vous ai citées, sachant que aucun document n'est précis. On dit c'est petit, c'est moyen, c'est grand, on ne dit même pas si c'est rouge ou bleu, il n'y a aucune notion des inscriptions des drogues ou des médicaments. Donc vous voyez que c'est très peu précis, par conséquent, les pertes sont considérables des connaissances de ces pots. Voilà. Les flacons en verre doré, j'ai mis un peu plus de 20, c'est 23 très exactement. Le gros mortier dont on sait d'où il vient, dont on sait qu'il est offert par Stanislas, on sait le nom du fondeur, donc je vais essayer d'en savoir plus. L'ensemble des boiseries que vous avez vues sur les photos, mais qui posent quand même certains problèmes parce qu'il semble que ce ne soit pas si clair que ça. On ne sait pas très bien si tout est une boiserie du XVIIIe siècle ou s'il y a des ajouts, donc il faut travailler, comme d'habitude, plus qu'on imagine. Le très beau lustre que vous avez vu, et puis il y a du mobilier religieux, donc, qui lui ne fait pas partie de l'inventaire, n'est pas classé, et qui donc ne s'en va pas au musée, et dont on veut penser qu'il est resté dans la chapelle de l'hôpital, qui est toujours en activité, à l'heure qu'il est. Voilà. Donc la situation actuelle, il y a donc l'incendie de la nuit du 2 juillet, il ne reste rien de cette partie du musée, les uniformes c'est pas mieux, donc on refait un inventaire, on a réussi pendant l'incendie à récupérer des pièces en les transportant sous le feu de l'incendie, on a récupéré des tessons de choses, et puis on essaye de reconstituer, en remettant, vous savez, comme font les archéologues, des morceaux mis bout à bout, voilà. Et puis il s'est créé, donc il y a eu une immense émotion dans la région, le conseil départemental a mis de l'argent, le conseil régional, tout le monde, pour reconstruire le château. Alors on a refait tout ce qu'il y avait, tout l'immobilier qui avait été abîmé, on l'a refait d'une façon tout à fait magnifique, à ceci près que les pierres ont été abîmées par l'incendie, et qu'il y a des métaux qui ressortent aujourd'hui, et que donc la pierre, à certains endroits, n'a pas la couleur primitive, mais enfin c'est un très très beau travail qui a été fait, mais bien évidemment, nos 200 pièces d'apothicairie, ça, il n'en reste plus rien. Il s'est constitué une association des amis du musée, laquelle essaye de reconstituer les collections du musée, d'en acheter, d'en obtenir en dépôt, et puis qui fait des expositions. Et il y a eu ces derniers. Depuis que je sais que je vais avoir parlé de ce sujet auquel je ne connais rien, j'ai essayé d'en savoir un peu. Donc nous avons été avec mon épouse dans plusieurs expositions, et effectivement il y a eu une très belle exposition l'année dernière à Lunéville où quelques pots ont été présentés. Il y a eu une exposition à Baccarat, vous connaissez tous le cristal, à la mairie de Baccarat au printemps, avec encore quelques pots de Madame Calam, enfin une exposition faite par Madame Calam. Et puis il y en a une actuellement qui porte sur le château et la vie à l'époque de la cour de Stanislas, à l'époque de la cour ducale, où il y a un certain nombre de faïences, pas beaucoup, 3-4, qui sont exposées. Et puis si vous regardez dans les ouvrages sur les pots de pharmacie, on trouve des photos, on trouve des mentions. Il y en a un au musée de la pharmacie dont parlait Bruno tout à l'heure, sort de Tabal. Il y a une chevrette, ça c'est sûr, il y a la tête de buffle, donc on sait qu'elle vient. Il y en a une autre dans une collection de l'industrie pharmaceutique, ça doit être Sylvagégie, si je ne dis pas de sottises. Il y en a une dans la collection Bruns qui appartient à la fac de pharma, qui est au musée Lorrain, leur pilet, parce que j'en ai la photo. Ça vient d'une thèse qu'on avait fait faire à la fac. Donc il y en a, et il y en a en vente sur Internet, qui ne sont pas forcément bien identifiés, vous savez comment c'est. Donc on en trouve un certain nombre, et puis il y en a chez des particuliers, bien évidemment, dont on ne sait pas où elles sont, puisque c'est toujours marqué collection privée. Donc je vous en montre quelques-unes, et on verra mieux. Donc voilà, vous voyez un pot biancé, il y en avait tout un tas, donc avec deux anses, il y en avait tout un tas dans la collection. Alors, ça, c'est ce sont des photos donc de pots qui sont, je ne sais pas où à l'heure qu'il est, je ne sais pas où à l'heure qu'il est, mais j'ai choisi cette grande photo parce que ça a l'avantage de vous montrer cette tête de buffle stylisée. Il a un anneau dans les naseaux que vous ne voyez pas, mais qui est ici. Donc ça, c'est des armoiries, si l'on peut dire, de la famille Leczinski en Pologne. Et donc, une partie des pots porte cette inscription. Et on dit, ben ça, c'est sûr que... Alors, ça reste à démontrer quand même. C'est sûr que ça vient de chez Chambrette et que c'est offert par Stanislas à l'hôpital Saint-Jean. Voilà. Et je ne suis pas plus assuré que ça que ce soit vrai, parce qu'il faut maintenant faire des études beaucoup plus précises. Et comme rien n'a été fait, c'est plus difficile. Alors, vous voyez, donc... Une qui a été exposée à Lunéville l'année dernière, qui est actuellement encore exposée dans l'exposition qui a lieu, et qui vous montre, donc vous voyez, du sirop de chicorée, et vous voyez mieux ici, bien que ce ne soit pas toujours très évident, donc l'endroit où se trouve cette tête de buffle, qui est caractéristique donc, de l'identification, si on peut dire, puis vous voyez donc, le style qui imite des morceaux de bois, tant en ce qui concerne l'anse, qu'en ce qui concerne le boulot. Voilà. Donc, c'est des photos qui ne sont pas très belles parce que ce sont des photos que mon épouse a prises. Oh. Non, attendez, mais je vois qu'il fait des signes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si tu viens de montrer le plafond, je ne sais pas quoi. Ah bon, ben, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est la première fois que je viens dans cette salle de thèse. Je n'y ai présidé aucun jury. J'aurais été plus à l'aise en bas.
Excellent photo.
Voilà. Merci Michel. Oui, donc les photos sont proches, non pas parce que mon épouse les a ratées, mais parce qu'on était loin, parce qu'il y avait une barrière qui nous empêchait de nous approcher, et qu'en plus de ça, c'est beau. Toute la vaisselle qui est présentée est sous un parallélépipède en plexiglas ou en verre, donc ça rend la photo difficile. Donc vous voyez le haut là, qui est l'angle, mais j'en ai fait volontairement pour vous les présenter, même si elles sont moches, parce que on n'est pas très riche en images. Et à l'époque, quand je les ai faites, je n'avais pas celles qu'on m'a envoyées ces jours derniers. Donc voilà, celles-là, c'est ce qu'on essaye de remettre. Alors vous voyez qu'il y a d'autres pots, parce que là c'est marqué « hors Vietnam ». Je vois M. Lafont qui se penche, effectivement, ça, il y a une tête qui peut être une sorte de tête d'Indien, comme on en a à Montpellier, avec un décor donc tout à fait différent, et ça donc correspond bien à ce qu'a dit Robert Montagu en 92, qu'il y avait des origines différentes, des décors différents, et que ce n'était pas du tout homogène, contrairement à ce qu'on peut voir si on passe en vitesse devant l'ensemble. Voilà, alors ça a été présenté plus récemment. Donc là c'était mieux parce qu'on était plus près. Donc on pouvait, elle est cachée derrière une vitre. Hein. Mais enfin, donc vous voyez la tête de buffle très classique que je vous ai déjà, indiquée à plusieurs reprises. Et puis des indications, comme il y a toujours, certaines qui ne sont pas très faciles, mais donc il y a des spécialistes qui sauront donc nous dire ça. Voilà. Et puis, donc, vous voyez, il y a d'autres pots qui sont en ce moment présentés. Alors, il faut être extrêmement prudent, parce que comme le musée essaye de reconstituer des collections, on ne sait pas toujours si c'est du Lunéville de Saint-Jacques, ou si c'est du Lunéville d'ailleurs, ou si c'est pas du Lunéville, vous voyez. Et par exemple, il y a des pots d'autres qui sont marqués comme ayant été prêtés par un petit hôpital à Roville, je ne sais plus comment, où il y a un très célèbre haras dans la région de Lunéville, et donc ça n'a rien à voir. Donc vous voyez qu'il faut être très très prudent quand on prend des photos, parce que voilà. Alors, vous êtes certainement, pour certains d'entre vous, beaucoup plus compétents que moi en la matière sur ces pots. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous présenter. Je pourrais vous présenter encore 15 ou 20 photos, mais d'abord on n'a pas le temps. Donc vous voyez, c'est un ensemble qui était très intéressant que tous les gens qui l'ont connu disent comme ayant été très intéressant, mais que malheureusement personne n'a jamais étudié en détail, ni même superficiellement, si j'ose dire. Encore les gens du château, du musée, m'ont dit par personne interposée, aucune étude faite jamais, ni avant ni après. Donc ça c'est quand même dommage, il n'en reste rien que des dessins, voilà. Et puis donc vous voyez des tentatives de trouver des pièces sur le marché de l'art, l'existence de pièces, donc dans des collections, musées, etc. Tiens, j'ai fait une faute, des collections et des musées. Mais on trouve aussi en vente sur Internet des choses étonnantes, et ça me conduit à me poser une autre question sur laquelle je vais terminer. Existait-il dans le château une apothicairerie différente de l'apothicairerie de l'hôpital, avec des pots qu'on n'a jamais vus, avec un mortier qui est au musée Lorrain? Alors, c'est un mortier. On peut penser qu'il y avait une apothicairie, d'autant que je sais qu'il y a des apothicaires, je peux vous citer les noms, les prénoms, les années. Donc, là encore, on va se trouver en face, un jour ou l'autre, de peaux, de chevrettes, de ceci, cela, qu'on dira comme ayant peut-être été de l'hôpital Saint-Jacques, mais qui, peut-être, provenait de l'apothicairie du château, dont pour le moment, personne n'est capable de me dire si ça existait ou non. Où elle était, si elle était dans le château à Lunéville ou dans les communs, mais en toute état de cause, il y a des apothicaires et il y a un mortier. Donc, vous voyez que, comme d'habitude, c'est beaucoup plus compliqué que ce que l'on peut imaginer, et par conséquent, il y a du travail. Je pense que je suis à la fin. Voilà. Donc, l'incendie a engendré un intérêt pour le château et bien sûr pour les collections disparues, mais sans que personne n'ait jamais rien fait. La seule personne qui connaissait quelque chose et qui a certainement un dossier, c'était M. Naudet, malheureusement il est mort. Et je n'ose pas aller imposer à Mme Naudet de me donner le dossier, parce que je trouve que ce serait très inconvenant. Une étude a été réalisée par un professeur d'une université étrangère très récemment, et il fait par de l'archéométrie avec des techniques extrêmement savantes, donc des études d'attribution, et il dit qu'à l'hôpital de Bruyères, dans les Vosges, où il y a une très belle collection de peaux, eh bien, cette collection de peaux, c'est la première commande que Chambrette aurait honorée en 1750 quand il s'est mis à faire des peaux de pharmacie. Alors, c'est ça, entre autres, qui a été contesté par cet homme de Lunéville. Mais donc, vous voyez qu'il y a des choses qui se font et qu'on avancera peut-être dans ce sujet. Donc, je remercie le président de m'avoir fait travailler parce que ça m'a fait découvrir quelque chose que j'ignorais. Et puis, c'est le début d'une recherche qui, si on veut la faire, sera certainement très intéressante, mais très difficile. Voilà, je vous remercie.
Merci. Y a-t-il des questions ?
Oui. Oui, monsieur le président, je me permets de vous poser une question. L'inventaire de 1966 révèle une somme de 46 500 francs.
Oui.
Comme estimation.
Oui.
Alors, vous, monsieur le président, qu'est-ce que vous pensez en tant qu'acheteur-vendeur de peaux sur cette estimation ?
Difficile de savoir compte tenu des dates, mais ce n'est pas énorme comme
non,
ça.
Non,
c'est plutôt faible.
Oui, c'est ce que j'en ai pensé, Francis. Oui.
C'est une estimation basse.
Oui, ça m'a semblé d'une estimation basse.
170 pièces.
Il y a 173, telles que je les ai comptées et recomptées. Plus les 23 bouteilles en verre, comme tu en as, que tu as vu sur les photos.
Alors en 66, ce sont des nouveaux francs.
Oui,
ce
ne
sont
oui.
pas des anciens francs.
Oui, quand même.
En verre.
Mais c'est quand même pas très cher.
C'est vrai. Mais c'est quand même pas très cher.
C'est pour l'assurance.
Oui, sûrement. Sûrement. Mais c'était en 66, c'était Henri-Pierre Forest qui était conservateur du musée de Sèvres à l'époque.
Il faudrait voir l'évolution des cotations de faïence.
Ouais, elle est très fluctuante. Hein.
Elle
a énormément baissé les 10 dernières années. Et elle commence à remonter. Mais en 66, je ne me souviens pas exactement.
Bon, moi, ce que je sais, c'est que l'abbé Échoux n'était pas un spécialiste du sujet. Alors, c'est vrai que c'était le grand conservateur du musée Lorrain depuis fort longtemps. Mais je pense que ces avis n'étaient pas des avis vraiment d'experts. Bon, pour l'autre conservateur, les choses sont très différentes. Mais moi, ça m'a étonné de lire le nom de l'abbé Échoux, qui était spécialisé dans toute autre chose.
Et à l'époque, Henri-Pierre Forest, qui connaissait très bien des faïences. C'était un élève de Chompré.
Ah oui.